Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un enfant du rock, un styliste, un créateur mondialement connu. Il a habillé Madonna, Mylène Farmer, celui qui a fait plus pour la marinière qu'Arnaud Montebourg. Notre invité est le couturier des stars et la star des couturiers, monsieur Jean-Paul Gaultier.
Bonjour.
Bonjour Jean-Paul Gaultier.
Bonjour.
Alors vous venez nous parler de ce très beau spectacle que j'ai vu dimanche, Fashion Freak Show aux Folies Bergères. C'est un grand succès populaire.
J'en reviens pas, hein. Je pensais pas que ça ferait un résultat comme ça. Enfin, bon, bah, c'est mon rêve de gamin, c'est ça à la base. C'est-à-dire que je rêvais de faire une revue depuis que j'étais tout petit, même avant même de faire de la mode. Parce que j'avais vu à la télévision, en effet, une ouverture des Folies Bergères. Donc je me disais, voilà, un jour j'aimerais faire ça. Et puis là, et ben maintenant, j'ai arrêté mon prêt-à-porter, je continue la couture et tout. Mais maintenant, je me dis, ben voilà, c'est le moment. Enfin, c'était le moment peut-être de le réaliser, ce rêve.
Mais moi, j'étais. Franchement, quand on m'a dit que vous faisiez un spectacle, je me dis, bon, c'est intéressant, mais je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Je trouve un spectacle magnifique, avec de l'humour, de la créativité. On ne s'ennuie pas une seconde. Il y a des projections vidéo, il y a des guest stars, il y a des danseurs formidables, il y a une chanteuse formidable. Mmh. Et on suit votre histoire. C'est passionnant. Et alors, en plus, ce qui m'a halluciné, c'est que le public est très mélangé, quoi.
Tant mieux.
Il y a de tout. Oui.
Ben voilà, c'est bien différents âges, je crois. Et
dimanche, vous êtes venu saluer à la fin du spectacle. C'est tout.
Pas tous les jours, hein. Non, mais quelquefois quand j'y suis. Ouais.
Et j'ai rigolé parce que vous avez dû passer le contrôle de sécurité à l'entrée. C'est-à-dire...
Oui, vous avez vu ça.
Oui, oui. Ils vous laissaient pas passer.
Ben oui, j'étais arrivé avec des gens de ma famille et tout, et donc j'étais là et puis j'arrivais pas à trouver les places et tout, etc. Je savais pas où elles étaient, donc du coup,
vous avez fait la queue comme tout le monde.
Quand même, écoutez, je regrette, mais j'ai fait le spectacle.
C'est incroyable. Les gens qui travaillent avec vous disent que c'est formidable, mais que vous avez 1000 idées à la minute et que parfois c'est un petit peu déstabilisant, parce que même ceux qui ont travaillé sur le spectacle, ils disaient que vous arriviez avec plein d'idées, il fallait tout recommencer, tout. Parce que dans la mode, on fait ça, mais là, dans
ouais,
le spectacle, c'est parfois
voilà,
plus compliqué.
C'est ça. Par contre,
mais dit qu'il
c'est vrai
est
que je
chiant,
suis pas
aussi.
Très adapté.
Non, je dis qu'il est extrêmement créatif.
Ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu trop quelquefois. C'est pas bien, c'est pas une qualité spécialement, parce que quelquefois justement, cette espèce de bouillonnement, ça me fait
mais
quelquefois.
Mais c'est ça qui fait votre succès.
On est autre part. Ouais, mais enfin quelquefois ça me fait.
Il faut vous
canaliser. Il faut pas que je parte. Voilà, il faut pas que je parte trop quand même de ce que je veux dire. Vous voyez, parce que quelquefois, bah oui, pour l'idée, on peut s'éloigner quelquefois.
Donc c'est un trentenaire qui a écrit le texte que vous avez rencontré.
Ouais,
qui
ouais.
A
écrit...
Raphaël, ouais, Chofi, et qui travaille toujours, je crois.
Sur Canal Plus,
sur Canal Plus, etc. Et tout.
Qui a 30
et qui est très
ans.
Drôle et
oui.
Tout, exactement.
Et c'est lui qui a écrit.
Je ne fais pas de ségrégation d'âge. Hein. Il n'y a pas que les vieux comme moi. Mince.
Et alors, il y a un passage très drôle de Catherine et Liliane dans le spectacle.
Ouais,
vraiment
très amusant.
Très drôle.
Bah, si vous voulez, il y a tout ce que j'aime, en fin de compte. C'est-à-dire que j'aime la télévision, comment je regarde toujours la télévision. J'ai voulu montrer la danse. J'adore ça, j'ai collaboré et tout, le cinéma et tout, c'est le cinéma qui m'a fait faire et la télévision qui m'ont fait faire ce que je suis, continue à faire. Donc, voilà, donc c'était normal que ce soit dans un spectacle pour moi.
Vous avez fait parler votre nounours.
Ah, bah c'est mon ours, parce que lui, il a la de tout, quoi.
Nana,
c'était mon enfant terrible à moi. C'est-à-dire, c'était.
Vos parents voulaient pas vous acheter de poupée.
C'est exactement ça. Alors, du coup, j'ai mis des prothèses, c'était le premier ours transgenre. Et il a eu les seins comiques, mais avant Madonna, mais c'est vrai en plus.
Mais Jean-Paul Gaultier, les poupées n'ont pas de seins quand même.
Non, alors c'est très
Barbie,
bizarre.
Barbie, elle en a, non ?
Mais vous savez quoi ? Oui, Barbie en a, mais tout petit. Mais à l'époque, il y avait. J'avais pas de Barbie, j'avais seulement cet ours parce que les poupées étaient réservées pour les filles. Ouais. Donc, du coup, alors c'est pour ça que je l'ai transformé. Mais moi, je voyais, vous savez.
Mais qu'est-ce qu'ils disaient vos parents quand ils voyaient faire un ours avec des seins ?
Ils ne disaient rien. Parce que ma grand-mère me laissait faire. C'est ma grand-mère qui me laissait tout faire. C'est eux qui ne voulaient pas que j'aie de poupées. Mais elle, après, je pouvais faire ce que je voulais et
chez
tout.
Elle.
Alors, en plus, je faisais subir tous les traitements qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait opération à cœur ouvert du professeur Bernard, donc je lui faisais l'opération. Mais comme j'avais mis les seins coniques sur le cœur, je ne pouvais pas. Alors je lui ai fait une espèce de
truc
central comme ça pour les intestins. Enfin, c'est devenu autre chose. Et puis je le faisais se marier, mon ours, comme Fabiola de Belgique, enfin, qui s'est mariée avec Baudouin, le roi Baudouin.
Donc elle avait sa robe de mariée. Vous aviez qu'un ours, mais avec qui elle se
mariait je ne sais pas, je ne me suis même pas posé la question. Ce qui m'intéressait, c'était d'habiller mon ours en mariée. Donc elle s'était donc avec Baudouin, on va dire, le roi Baudouin.
Alors vous avez le producteur Thierry Sue, qui est le producteur de Mylène Farmer, qui vous a suivi dans cette aventure. C'était une aventure quand même, ça coûte cher parce qu'il y a beaucoup de monde sur scène.
Il y a du monde sur scène, mais on a fait, si vous voulez, question budget costume. J'ai quand même utilisé certains costumes que j'avais déjà faits et tout, donc il y a des antiquités, mais c'est pas gênant, moi j'aime bien le recyclage et le vintage. Donc il y a en effet des vêtements sur scène de mon premier défilé.
Donc c'est hors de prix les costumes là pour le coup.
Mais ils ont une valeur, de quelquefois de couture ou de prêt-à-porter ou vintage, oui, mais c'est une valeur virtuelle, on va dire.
Il y a des projections vidéo en permanence, donc on est immergé, ça c'est magnifique aussi. Ça,
ça c'est bien pour l'atmosphère, je trouve que c'était important d'avoir justement ces images qui bougent et tout, qui mettent en valeur.
Qui vont jusqu'au plafond en fait, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
C'est pas juste un petit écran vidéo derrière. Et vous avez eu peur à un moment que ça marche pas ce spectacle ?
Totalement, non mais c'est-à-dire que je pensais sincèrement que c'était vraiment comme une espèce de plaisir pour clôturer presque, enfin vous voyez, pour faire la boucle, pour fermer la boucle, et me disait, ben voilà, je le fais. Comme j'ai plongé, en fin de compte, pour faire mon premier défilé, quoi. Je ne savais pas si ça allait marcher et tout. Je pensais que ça marcherait. Là, je pensais que ça marcherait moins bien, parce que je me disais, mince, comme déjà, je viens du milieu de la mode et tout, tout le monde va se dire, ça y est, de quoi il se mêle et tout, il fait quelque chose. Bon, mais c'était un rêve. Et puis, c'est aussi parce que je pensais que la mode aussi, c'est en quelque sorte un spectacle. Donc, faire un spectacle
quand
de
vous
mode,
avez vu
vraiment,
la, quand vous voyez la queue dehors, que vous n'arrivez même pas à vous...
Ça me fait une joie incroyable.
Quand vous n'arrivez même pas vous-même à rentrer dans le théâtre.
Ça, c'est assez incroyable.
C'est bien, ils font leur métier, au moins.
Et alors, il y a plein d'artistes dont on se souviendra toujours grâce ou à cause d'une chose. Vous, c'est la marinière. Ça vous agace quand on dit Jean-Paul Gaultier, c'est la marinière?
Pas du tout,
c'est...
puisque au contraire. À la limite, je vais vous dire une chose, c'est que quand je me suis rendu compte que le fait, quand je faisais mes marinières, en plus, j'essayais de les... de leur apporter quelque chose. Je n'ai pas fait la marinière littérale, quoi. Au départ, peut-être, mais après, je l'ai transformée. Eh bien, j'ai continué à en faire encore plus, si vous voulez. Peut-être c'est ça qui m'aidait peut-être à trouver mon style, vous voyez. Ça en fait partie comme le corset, vous voyez. C'est les deux pôles et tout. Donc, j'ai fait plein de choses en travaillant ça. Parce que...
Et est-ce que vous avez porté votre parfum, Jean-Paul Gaultier?
Est-ce que je l'ai porté? Bien sûr, je l'ai porté.
Parce que moi, je l'ai porté.
Est-ce que je le porte aujourd'hui? Non.
Ah ouais, non.
Non.
Non, moi, je l'ai porté. J'avais beaucoup de succès grâce à votre parfum.
Ah bah, tu devrais le remettre.
Non, parce que celui que je mets aussi maintenant, j'ai grave pécho grâce à lui.
Ah bah, voilà.
C'est lequel?
Je ne livre pas mes secrets.
C'est vrai que ça marche, parce que moi je mettais le mâle aussi.
Oui,
je...
le mâle.
Et ça marchait
grave. Ça sentait trop bon.
Mais c'est bien pour. Enfin, mais l'idée.
Moi je vais l'acheter. C'est ça qui ne va pas. Je vais changer de parfum. Je vais arrêter Chalimard, je vais mettre le mâle. Il y a des moments aussi très émouvants dans ce spectacle, quand vous évoquez la mort de votre grand amour.
Oui, Francis.
Et deux chansons inédites de Rita.
De Catherine Ringer.
De Rita Mitsouko. Ouais.
Exactement. Bah, si vous voulez, on se connaissait bien, Rita Mitsouko, Francis et moi. De tous ensemble. Et donc, après, quand est arrivé le moment où je voulais évoquer la mort de Francis, c'est-à-dire que la mort due au sida, donc est quelque chose des années 80, puisque ça passe un peu les différentes années et tout, 80 et qu'il continue toujours. D'ailleurs, il y a toujours des gens qui meurent du sida. Bon, et maintenant, on trouve des solutions, mais enfin, c'est quand même pas encore fini, loin de là. Je me suis dit, tiens, comment le représenter? Et comme je voulais faire, déjà, on voulait faire ensemble un spectacle, une revue, quand je pensais dans les années 80 peut-être faire une revue, c'était avec Rita Mitsouko. Et là, bon, bah Fred n'est plus là, il est mort lui aussi. Et donc, je me suis dit, bah, je vais demander à Catherine elle-même, comme si elle était légitime, pour faire comme elle-même, ayant été en couple et ayant fait l'Rita Mitsouko avec Fred Chichin. Moi, bah, c'était avec Francis et Jean-Paul Gaultier. Voilà.
Et c'est une très jolie chanson qui est inédite.
Oui, voilà. Alors, c'est-à-dire qu'il y en a une, c'est I Want Your Love, ça c'est celle de Nile Rodgers, ça c'est la rencontre. Mais celle de la mort, c'est comment I Got You Under Your Skin, My Skin, qui est.
Je t'ai sous la peau. Non, je traduis pour Anne parce que je l'ai dans la peau.
J'ai donc, déjà eu quelqu'un dans la peau, figure-toi.
Avant, voilà.
Non plus maintenant, mais.
Et donc, comment. Oui, mais c'est elle qui a écrit la version française, mais en changeant, en mettant elle à sa façon, en se projetant elle-même
jolie.
Aussi, elle par rapport à Fred, quoi. C'était un petit peu.
C'est une très belle chanson. Et alors après, en plus, ce qui est formidable, c'est que après ce moment d'émotion, il y a des drag queens qui arrivent, qui distribuent des préservatifs
exactement,
dans la salle.
Exactement, exactement.
Et alors ma fille m'a dit, qui était déjà venue, elle me dit, oh mince, c'est dommage, on est au premier étage, on va pas avoir de préservatifs.
Je vais leur demander de monter au premier étage et au premier balcon et au second balcon.
Mais c'est voilà.
De continuer à faire.
Ben H a fait votre portrait.
Oui, oui, Jean-Paul Gaultier, vous êtes mon tout premier portrait haute couture. Jusqu'à aujourd'hui, je me contentais d'écrire des papiers prêts à porter. Parfois, je reconnais même avoir cousu quelques papiers made in China avec des blagues écrites par des enfants. Oh. Mais pas ce midi, car ce midi, je vous ai tissé un papier ajusté à la perfection, façon corset. Et à l'image de vos célèbres poitrines, l'humour que j'emploierai y sera pointu. Pas question de faire référence au fait que monsieur Jean-Paul Gaultier fait sans doute, à mes yeux, le plus beau métier du monde. Être au milieu de femmes sublimes qui se déshabillent et qui se rhabillent et puis qui se déshabillent et qui se rhabillent, le tout en étant rémunéré. Je dis pas que faire des blagues avec Anne Romanoff et Léa Landau, c'est un sous-métier. Je dis juste que les blagues, elles les font uniquement habillées.
Moi, je peux me déshabiller si on me demande.
Ça va aller.
Que de la gueule.
Chiche.
Je ne ferai pas également référence au fait que vous avez le 06 de Laetitia Casta et que vous avez révélé, mais non, je n'irai pas sur ce terrain car ce midi, je serai classe, élégant. Ce midi, ma tenue, c'est du Célio, mais ma plume, c'est du Gautier. Car j'ai le sentiment vertigineux de devoir réaliser le portrait d'un pan entier de la culture à la française. Et avant d'arriver devant vous, j'ai repris chacune de mes phrases, chacun de mes mots, afin que ces derniers puissent défiler dans vos oreilles avec style, malice et un soupçon de provocation à un papier à votre image. Donc, alors j'ai rayé, corrigé, pour encore rayer mille fois de mon stylo bleu cette page blanche. Tellement de rayures, c'est vous dire, il y a encore une heure, cette feuille n'était pas une chronique, mais une marinière. Un portrait haute couture ce midi, donc, parce que Jean-Paul Gaultier, c'est Jean-Paul Gaultier. Ce midi, je parle à une icône, ce midi, je parle à un génie, ce midi, je parle à mon parfum aussi. Ce midi, j'avais la prétention de briser les codes de la chronique radio, comme vous avez brisé les codes de la mode en faisant votre portrait, non pas avec des mots, mais avec du mime. Et puis non, finalement, faire un mime en radio, le seul truc que je brise, c'est pas les codes, c'est ma carrière. Donc non, et puis non, finalement, parce que j'ai surtout découvert votre bio. J'ai découvert l'homme au-delà de sa légende et je réalise que Jean-Paul Gaultier, ce n'est pas que Madonna et Dita Von Teese. C'est aussi et toujours le gamin simple d'une famille modeste de Bagneux qui rendait visite à sa grand-mère pour lui décolorer les cheveux. J'ai découvert aussi que Jean-Paul Gaultier, c'est aussi et surtout, comme moi, un grand amoureux de la femme. Toutes les femmes, hein, quelle que soit leur couleur, leur taille, leur poids, leur âge, de Bess Ditto à Valérie Lemercier, de Nabila à Conchita Wurst, en passant par Amanda Lear. Donc oui, vraiment toutes les femmes. Une ode à la tolérance et au féminisme. Et bien, comme vous, sachez que moi aussi, c'est mon petit côté Jean-Paul Gaultier. J'ai fait défiler tout type de femmes, sauf des mannequins, mais ce n'était pas sur les podiums, effectivement. Alors pour conclure, et en toute simplicité, Jean-Paul, je suis pas contre le 06 de Laetitia Casta, finalement. Et oui, je le reconnais que ce portrait n'est qu'un petit aperçu de votre immense carrière, Jean-Paul Gaultier. Mais j'avais prévenu, c'est de la haute couture. Le grand public ne peut pas y avoir entièrement accès. Merci, Jean-Paul.
Jean-Paul Gaultier, vous avez envie de quoi dans les années qui viennent ?
Peut-être continuer à dessiner. Là, je crois ce qui se passe, je continue un petit peu à faire donc la couture. Bon, ça s'arrêtera sûrement un jour. Là, le spectacle peut-être va voyager, donc oui, il va falloir le refaire. C'est ça qui est génial. C'est le fait, si vous voulez, que rien n'est jamais définitif. C'est-à-dire qu'après, on peut toujours le changer un peu.
C'est ce que j'ai pensé, moi, quand j'ai vu le spectacle, qu'il pourrait aller à Londres, à New York.
Oui, oui. Ouais.
On vous l'a proposé ?
À Broadway. En ce moment, c'est en train de voir et tout, etc. Et tout, donc, c'est d'une part flatteur. Et en même temps, c'est drôle parce que l'aventure continue, quoi. Je veux dire, quand j'avais fait l'exposition, vous savez, qui était passée un petit peu comme ça, il y a eu 12 étapes et tout. Et bien, à chaque fois, je changeais un petit peu suivant le pays et tout. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait comme si, voilà, ça ne s'arrête pas. Je suis pour le recyclage, moi.
Donc, il faut que les gens aillent le voir au Folies Bergères avant que ça parte à Broadway.
Ouais. De toute façon, ça sera autre chose là-bas. Oui, donc là, c'est la version unique française.
Cela dit, on voit que le spectacle est aussi pensé pour un public international parce qu'il y a des choses en français, mais parfois, c'est traduit.
Ça, c'est un peu le milieu de la mode aussi que ça dépeint parce que c'est vrai que très tôt, du coup, j'ai été amené à parler anglais. J'avais appris un peu à l'école, mais j'étais pas très doué. Mais du coup, parce que les gens, bon, ça parle internationalement.
Vous moquez un peu de Karl Lagerfeld dans le spectacle. Il l'a pris comment ?
Disons, non, c'est une espèce
oui,
de caricature.
Oui, enfin, d'accord,
bon,
mais
d'accord. Non, je sais pas comment il l'a pris.
À Karl Lagerfeld de couleur, alors en plus.
Oui, voilà. Ben voilà, il est déjà changé. On l'a un peu décalé. Ouais. Là, c'est pas le recyclage, c'est autre chose. Ouais. Donc, c'est un décalage. Oui, il est très bronzé. Et donc, ça va très bien avec la perruque. Ah, oui. C'est très bien.
Vous entendez bien Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier ?
Est-ce qu'on s'entend bien ? J'ai des difficultés d'oreille. Non, mais bien sûr, il n'y a absolument rien
vous
de
êtes pas
mal.
Amis.
Mais en fin de compte, je fréquente très peu de. Enfin, je fréquente même pas du tout de personnes
couturier.
De mon métier. C'est pas que je ne veuille pas, c'est que simplement, j'ai des choses à faire et tout ça. On a tous beaucoup de choses à faire. Et énormément, maintenant, les rythmes sont assez effrénés. Donc, je dois dire non, il y a à part Martin Margiela, parce que lui, bon, il était mon assistant, et voilà, et je garde une amitié comme ça et tout.
Et dans les jeunes créateurs, il y en a que vous trouvez plus doués que d'autres ?
Ah, bah oui, il y en a une qui s'appelle Iris Van Herpen, qui fait des choses assez incroyables en 3D et tout, absolument extraordinaire, qui est très créative et tout, c'est une Hollandaise. Il y a aussi, il y a Slimane qui est très bien, Eddie Slimane, Vaccarello qui est maintenant chez Saint-Laurent. Enfin bon, il y en a qui. Si, y a la relève est très bien, il n'y a pas de souci à se faire, il y a de la création et tout. Et à Paris, et ça se passe à Paris quand même, les gens se réunissent donc à Paris pour voir ça. Donc ça, c'est plutôt bien et encourageant.
Ah, vous avez commencé à 18 ans chez Pierre Cardin, vous aviez envoyé
le jour de mon anniversaire.
Vous avez envoyé vos dessins partout, c'est le seul qui vous a répondu ?
Non, alors on m'a répondu c'était Saint-Laurent, mais à l'époque ça lui plaisait pas, il avait mes couleurs guère attrayantes, il avait pas besoin d'assistant. Bon, j'ai pas mal
Saint-Laurent fait. Saint-Laurent vous a dit que c'était pas bien.
C'est pas lui qui l'a écrit, c'est une secrétaire qui m'a dit qu'il avait trouvé mes couleurs guère attrayantes, et Cardin a aimé mes couleurs. Bon, alors,
si
bon,
ça se trouve, il les a même pas vues, c'est l'assistante qui a répondu.
C'est rigolo je comme expression, pas, guère attrayante.
Ça. Oui. Bah oui, surtout attrayante, parce que attrayante, ça veut dire généralement, il y a une notion de comment joyeux, non,
ouais,
non
ouais, c'est attrayant. Vrai.
Or là, je crois que c'était justement par rapport aux couleurs que faisait Saint-Laurent à l'époque, qui étaient plutôt assez marine, noire, vous voyez, assez neutre.
Austère.
Moi, c'était l'inverse de ça, c'était une espèce d'explosion, un peu de couleur, qui d'ailleurs a plu à Cardin. Mais je dis ça tout en respectant, oui, je pense que ça devait être une assistante, en fin de compte. Ouais. On
c'est
va
sûr.
Dire ça.
Il a pas pu passer à côté.
Léa Lando a quelques questions à vous poser, Jean-Paul Gaultier.
Oui, Jean-Paul Gaultier, alors dans votre spectacle Fashion Freak Show, il y a des personnalités en vidéo, on en parlait tout à l'heure, et le mieux pour vous connaître, Jean-Paul Gaultier, c'est, je me suis dit, c'est de partir de toutes ces femmes avec lesquelles vous avez travaillé. Mmh. Alors pour ça, j'ai pas utilisé l'image comme vous, mais le son, puisqu'on est à la radio. Par exemple, la chanteuse d'Erita Mitsuko, donc Catherine Ringer, oui, dont on parlait tout à l'heure, elle a dit:
moi, je suis une artiste de corps, on pourrait dire.
Et vous, Jean-Paul Gaultier, vous direz que vous êtes un artiste de corps ou d'esprit?
Mmh. Oh oh,
oh, oh.
Je crois que c'est lié, non, parce que le corps à la fois, enfin c'est, sans parler de moi, parce que moi je n'utilise pas trop mon corps,
ouais,
je dois dire.
Mais vous faites travailler le corps des autres.
Mais je fais travailler, ouais, et puis je vois, la gestuelle est, ouais, très importante, c'est si, c'est vrai. Ben, c'est-à-dire que oui, je dirais que je suis quand même avant tout de corps, oui. Parce qu'en en fin de compte, je suis quand même très 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 visuel. Alors il y a la pensée qui doit aller avec, évidemment.
Ouais, ouais.
Donc l'esprit, les deux à la fois, je dirais.
Les deux.
C'est peut-être prétentieux de dire ça, disons que peut-être plus le corps quand même.
D'accord. Alors ouais, si Christina Cordula parlait de vous, elle dirait sûrement...
Pour moi, c'est mon exemple, ce qu'il y a dans la mode, en connaissance, en culture, en international, en modernité.
On la voit, Christina Cordula, dans le spectacle.
Bah ouais, oui, et toutes les femmes dont je parle, on les voit dans le spectacle en vidéo.
Exactement. Ben elle, je la trouve quand même très, très bien, dans le sens où elle montre aux personnes comme elle devrait faire, mais en n'étant jamais agressive, vous voyez, parce que souvent dans la mode, il y a des espèces de choses, ça, faut pas le faire, des choses assez dures.
De la méchanceté.
Et même un peu oui, la méchanceté.
Du mépris aussi.
Exactement.
Snobisme.
Et du coup, c'est exactement ce que. Elle, c'est l'inverse de ça.
Elle est bienveillante.
Elle sait dire les choses, même elle est bienveillante, et elle trouve comment. Elle trouve toujours quelque chose à dire, bon, ça, c'était pas mal, ça, tu pourrais faire mieux et tout, mais sans agressivité.
Avec le sourire.
Oui,
et
voilà.
Ce snobisme de la mode vous énerve, Jean-Paul Gaultier?
Oh bah, c'est pour ça que je ne fréquente pas les gens de la mode en général. C'est vrai, non, mais c'est vrai, parce que, non, c'est vrai que c'est basé. Bah, vous savez, le principe de la mode, en plus, c'est assez dur quand même, parce que c'est un peu une espèce de rétrécissement de la vie, dans le sens où ce qui est à la mode aujourd'hui, demain, c'est démodé.
Ne sera plus, bien sûr. Bon, alors, je continue avec toutes ces femmes qu'on voit en vidéo dans votre spectacle. Lynn Renault. Alors, elle a dit à l'époque où elle était danseuse de revue ceci:
je ne veux pas savoir qui y a dans la salle.
Et vous, Jean-Paul Gaultier, il y a encore des gens qui vous impressionnent, parce que Madonna, par exemple, est venue voir votre spectacle.
Ouais, même Leonardo DiCaprio. Donc, non, mais ça, évidemment, je suis un petit peu bluffé. Je vais vous dire, franchement, je suis resté vraiment très fan. C'est-à-dire très fan de certaines personnes que j'admire, leur travail et tout, Boy George, etc. Des gens vraiment que j'admire, et je suis content d'aller les voir, et je suis content de savoir ce qu'ils viennent voir.
Ouais.
Ça me fait un grand plaisir, un honneur même, parce que vraiment, même ces personnes-là sont des sources d'inspiration, vous voyez.
Ah ouais, c'est infini. Micheline Prel, qui est restée une très belle femme, une grande actrice, elle dit ceci:
je me suis sentie à l'aise tout de suite avec la caméra. Tout de suite.
Et vous, est-ce que vous seriez à l'aise devant une caméra, Jean-Paul Gaultier ?
Absolument pas. Non, très sincèrement, je suis incapable de dire un texte, d'abord.
Ouais.
Et puis, si vous voulez, au départ, je suis quand même, même toujours encore maintenant, mais pas de la même façon, mais très timide. Donc, si vous voulez... moi, j'aime bien être derrière et m'occuper des autres, vous voyez ce que je veux dire ? Mm-hmm. Je ne suis pas quelqu'un de sur scène. Alors, ça me fait plaisir de venir saluer et tout, surtout quand les gens applaudissent et même quelquefois se lèvent et tout, ça c'est un grand bonheur.
Dimanche, il y avait une standing ovation.
Mais par contre, je ne suis pas capable, moi je n'arrive pas, mettons, à contrôler ce que je vais dire, ce que je vais faire, ou etc. Dire un texte, c'est impossible. Jouer la comédie, non. Je peux qu'être en fin de compte moi-même. Quoi.
Mais on vous voit dans Absolument Fabuleux dans le film.
Ouais, mais c'est à chaque fois le rôle de Jean-Paul Gaultier.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à chaque fois, donc je n'ai pas trop d'efforts. Et encore, quelquefois, même je me souviens dans Abfab, version française, parce qu'il y avait la version anglaise, mais dans la version française, je dois dire deux mots à Catherine Deneuve, ben je peux vous dire, j'étais paralysé, je savais même pas dire bonjour, il était faux, quoi, moi, bonjour, vous voyez, c'était vraiment...
Ben justement, en parlant de Catherine Deneuve, elle a dit ceci:
Moi, j'ai des relations amicales avec les hommes.
Et vous, quelle est votre relation avec Catherine Deneuve? Elle est donc amicale. Comment vous entretenez votre lien amical avec elle? Parce qu'on ne la croit pas quand elle dit qu'elle n'a que des relations amicales avec des hommes.
En tous les cas, si, elle est amicale, évidemment. Mais aussi une relation de fan, puisque c'est quand même ce qui me... Vous voyez, j'ai toujours cette admiration, donc avec quand même une distance. Je ne suis pas à taper sur l'épaule de Catherine Deneuve, non, ça non.
Et alors, j'ai une dernière question, Jean-Paul Gaultier. Est-ce qu'un jour, vous pourriez faire défiler Anne Romanoff?
Mais pourquoi tu rigoles, c'est méchant.
Mais pourquoi pas, bien parce sûr, pourquoi pas, pas
parce que je visualise.
Si ça lui dit, c'est ça en fin de compte.
Mais avec plaisir, hein, j'ai déjà j'ai de l'expérience, j'ai défilé au Salon du Chocolat.
Et on ne vous a pas mangé?
Non, hélas, un regret. Pourtant, je suis à croquer.
Alors...
Nous avons le plaisir d'accueillir une comédienne et humoriste née sous Giscard qui a l'esprit de contradiction. Depuis mercredi, elle affiche du film Premières Vacances qui cartonne et qu'elle a coécrit. Sur l'affiche, on peut lire Les Vacances, c'est la pire épreuve du couple. Est-ce que c'est une œuvre autobiographique? Elle nous dira. Elle va nous répondre. Camille Chamou est notre invitée.
Ouais,
bonjour et bonne année.
Bonjour Camille Chamou.
Bonjour Anne, merci de m'inviter. Ouais.
Alors là, dans ce film avec Jonathan Cohen qui est sorti mercredi, vous jouez un jeune couple de trentenaires qui s'est rencontré sur Tinder.
Exact.
Et après la première nuit, vous partez en vacances ensemble.
Oui, en pensant que c'est la cerise sur le gâteau. Erreur. Erreur.
Ça vous est déjà arrivé?
Ah oui. Exactement, bah avec mon conjoint actuel d'ailleurs, avec qui j'ai écrit ce film, hein. C'est pour ça qu'on l'a écrit.
Après la première nuit, vous êtes partie en vacances?
Alors nous, c'était pas après la première nuit, mais c'était très rapide et c'était affreux.
Ah bon?
C'était épouvantable, c'est-à-dire qu'on était là, oh mais je t'aime, vacances, ah mais je n'aime rien de toi, je ne comprends pas ton rapport au monde. Et en fait, on a beaucoup ri après. Au bout de 5-6 jours où vraiment on s'engueulait énormément, on a commencé à rire et on s'est dit, bon ben voilà, il y a un sujet. Et
vous avez été où en vacances en vrai avec
Parce qu'on veut pas y aller à cet endroit.
Parce que dans le film, vous partez en Bulgarie, ouais. Parce qu'il y en a un qui veut aller au Liban et l'autre qui veut aller à Biarritz, c'est
exactement,
ça?
Exactement, et on fait un mi-chemin. Qui est la Bulgarie.
Vous avez tourné vraiment en Bulgarie?
On a totalement tourné en Bulgarie. Cinq semaines et demie.
C'est un beau pays?
Mais c'est un très beau pays. Pas totalement prêt pour le tourisme. Pas à 100%.
Mais vous savez que l'office de tourisme de Bulgarie vous a aidé quand même à faire ce film.
Mais ouais. Alors,
et puis qui nous écoute en ce moment.
Je ne sais pas s'ils nous ont aidés, en tout cas, je pense que nous les avons aidés. Car après ce film, où il y a des très beaux paysages de Bulgarie, je pense que les gens auront envie d'aller découvrir ce beau pays.
C'est vrai.
Ah bah ça va leur doubler le PIB. Ça,
c'est
alors dans le,
avec
dans
sa
le
femme,
film,
ça fait
il
envie,
y a
hein.
Jonathan Cohen. Il y a aussi Vincent Dedienne, Jérémy Elkaïm, Camille Cotin qui est une complice parce que ça fait, vous avez joué avec elle dans Largué, elle a mis en scène votre One Woman Show, Camille Chamou.
Exactement. Ben, en fait, on s'est connus il y a longtemps, il y a 12-13 ans, on a fait du théâtre ensemble et on est devenus très 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 copines. Et après, on a fait des trucs complètement
Et d'ailleurs, elle vous doit son succès parce qu'on vous a appelé pour jouer Connasse sur Canal+, et vous n'étiez pas libre et vous avez recommandé...
Je faisais les gazelles, je préparais les gazelles et je leur ai dit, voyez Camille, mais en revanche, elle a tout à fait passé un casting et remporter ce casting haut la main, et c'est comme ça qu'elle a fait connaître.
Mais un peu grâce à vous.
Oh oui, si on peut, oui,
Et après, vous n'avez pas regretté de...
Oh non, bah, en fait, je pense que chaque connasse n'aurait jamais fait succès si ça avait été moi, très probablement.
Bah, vous étiez aussi une bonne tête de connasse,
ah,
Camille.
Mais... Et pourtant, vous êtes une sacrée connasse. Non, écoutez, je pense que chacun est exactement à sa place au moment où il doit l'être, quoi. Donc, non, ça m'est jamais venu à l'esprit.
Alors, vous avez eu une mésaventure, vous avez commencé donc le One Man Show, vous avez fait du cinéma, et alors vous avez été virée d'un film 3 semaines avant le début parce que vous étiez enceinte.
Vous êtes tellement bien documentée. C'est vrai. On les déteste. Non, c'est pas vrai, il ne faut jamais détester les gens après coup. Non, non, j'ai complètement été virée d'un film parce que j'étais enceinte. Parce
et vous,
que...
vous avez dit, il vaut mieux être un acteur cocaïnomane qu'une femme enceinte.
Ouais, exactement. J'ai dit, tiens, c'est marrant. Enfin, ouais, vraiment, être héroïnomane ne semble pas être handicapant pour tourner. En revanche, être enceinte a l'air d'être vraiment, franchement, un gros problème. Mais voilà, c'est
vous l'avez regretté ou vous ne l'avez pas regretté?
Le film?
Ouais. Non, l'enfant.
Alors, j'ai regretté ni l'enfant ni le film. Et par ailleurs, je me suis réconciliée avec tout ça parce que cet été, j'ai tourné enceinte pour TF1, une fiction qui...
Enceinte d'un autre enfant?
Oui, d'un autre enfant. Mais je ponds. Mais je renouvelle la France, en fait.
Vous savez, t'as deux enfants?
J'en suis à deux enfants en 3 ans et demi, quoi. Je veux dire, ça vaut le coup de partir en vacances avec son mec trop tôt.
Et donc là, donc ce film, vous l'avez co-écrit ensemble. Ça doit être un... ça fait peur, j'imagine, quand vous...
c'est... ouais, c'est un cauchemar.
Et là, le fait que ça cartonne le premier jour, vous devez être hyper soulagé.
Non, c'est hyper sympa. On est hyper soulagé. Non, non, mais il y a des moments super, mais c'est comme tout. Enfin, il y a des moments où vous voulez vraiment tuer l'autre avec une hache. Hein, donc, et puis vous vous dites non. Bah, ce soir, je suis à nouveau dans un lit avec lui, donc je veux vraiment être obligée de le garder. Hein,
c'est donc le c'est Patrick Cassir, le réalisateur du film, et le co-scénariste. Et sur le plateau, comment ça s'est passé, le fait qu'il vous dirige?
Alors ça, super. Parce que sur le plateau, en plus, on formait une sorte de... je sais pas comment... de trio. J'allais dire de trouple, mais non, pas du tout. on était vraiment... enfin, comme il y avait Jonathan, Patrick et moi, et Jonathan Cohen, donc, qui joue mon partenaire, Patrick, réalisateur, et moi, en fait, c'était la... on sortait de la relation de couple, quoi. On était vraiment à trois à réfléchir au film et à essayer d'être le plus drôle possible et tout. Donc, du coup, sur le plateau, super.
Camille Chamou, ça cartonne pour vous au cinéma? Vous avez enchaîné je ne sais combien de films?
Eh ben écoutez, qu'est-ce qu'on répond à ça? Absolument. Absolument, ça cartonne. Non, mais c'est beaucoup
vous
de...
vous attendiez à ça, d'avoir, d'être tellement demandé au cinéma?
Je ne sais plus quel mec disait « faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain ». Et c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail.
Ouais. Moi, ça fait 12 ans que j'attends.
Ah, attends, tu y es presque. Non, mais c'est vrai, c'est beaucoup de tractage à Avignon, au Festival d'Avignon dans le Off. C'est beaucoup de petites salles, de café-théâtre, de machin. Et d'ailleurs, j'ai adoré. C'est un parcours que j'ai adoré. Mais...
enfin, y a des gens qui n'en sortent pas de ça aussi.
Eh ben, je pense que c'est un truc de... en fait, ça, quand tu mets toute ton énergie au service de quelque chose et que tu travailles énormément, il y a toujours un moment où ça paye. Pas forcément financièrement, Anne.
Non, pas forcément.
Où ça paye. Il y a un rendu. Voilà.
Qu'est-ce que vous racontez bien de ma vie?
Enfin, sauf qu'elle, elle a un rôle principal au cinéma.
Voilà, voilà.
Moi, ça arrive, ça arrive lentement. Ouais. Moi, mais quand ça va arriver, bam.
C'est le mieux. C'est le mieux, c'est prouvé. Oui. Il vaut mieux. Non mais je dis pas une blague. Il y a plein d'études aux États-Unis qui ont été faites sur le fait qu'il vaut mieux. Non mais je le dis à tout le monde.
Réussir le
plus tard possible.
Ouais, je vais tout déchirer à 85 ans.
Je jure. Non, mais, une fin de vie hyper heureuse. Non, alors que sinon tu es plein d'acidité parce que tu as perdu en même temps ta jeunesse et le succès. C'est horrible.
Alors que déjà je suis frais moi.
Mais moi je crois qu'il faut dans un premier temps la jeunesse, dans un deuxième temps le succès, dans un troisième temps
le chômage,
la mort,
la maladie et la mort. Vous avez été chroniqueuse sur Europe 1, Camille Chamou, dans l'émission de Michel Drucker, c'est un bon souvenir?
Alors, je voudrais savoir comment vous en êtes sortie.
C'est arrivé quand, l'argent?
Vous étiez payée, vous?
L'argent.
Non, mais je vais vous dire, vraiment, professionnellement, c'est l'un de mes 4-5 meilleurs souvenirs. J'ai adoré être chroniqueuse. J'ai adoré être chroniqueuse sur Europe 1, c'est vrai, vraiment, j'ai adoré ça.
Moi aussi.
En fait, je trouve qu'il y a un truc hyper vivifiant.
Ah oui, on est vivifié.
Quand on attend devant 5 ans.
Voilà, et ben t'es frais. Tu vois ce que je veux dire? Limite, t'as les joues rouges. Voilà. T'es conservé parce que t'es
cryogénisé. Non, mais c'était une bonne expérience.
C'était super. Moi, j'ai adoré, puis j'adore écrire des chroniques. Je suis très admirative de ces gens qui sont en face de moi.
Tu peux.
Et attendez, voilà. Vous n'avez pas encore lu ce qu'on a écrit. Hein.
Oui. Non, mais j'adore.
Ah, bah justement,
ça.
Laurent Barra.
C'est sur moi que ça tombe. Alors, au risque de passer encore une fois pour le dragueur de service, Camille Chamou, si comme beaucoup de grandes comédiennes, vous avez mis un peu de votre personnalité dans l'interprétation de Marion, personnage principal du film Premières Vacances, c'est que vous êtes la femme que j'aurais pu aimer.
Ah.
Oui.
Mais oui,
attention, planquez-vous.
Hein.
Voilà. Les sorties de secours se trouvent.
Petit a entendu jouer, émerveillé de tout, aventurière et surtout de ma génération, née sous Giscard, comme le titre l'un de vos spectacles. Moi qui n'ai jamais aimé les comédies romantiques, bien que j'aurais adoré jouer dans un remake de Coup de foudre à Notting Hill avec vous, Anne. Ouais. Mmh. Ça se serait appelé Coup de foudre à Europe 1. Hein. L'histoire d'une actrice très célèbre, très bronzée, qui tombe amoureuse de l'un de ses chroniqueurs originaire du sud de la France, suscitant la jalousie de tous les autres membres de l'équipe. Hein. Vous imaginez le succès au box-office, ça? Bah, bref, Camille, j'ai adoré ce film, car pendant un peu plus d'une heure et demie, il nous renvoie à cette quête permanente qui occupe l'essentiel de nos vies. Identifier, trouver et garder la bonne personne, et si possible, jusqu'à ce que la mort ou la routine nous sépare. Cette recherche d'une hypothétique moitié est un véritable état d'urgence qui touche encore plus les gens de notre génération, Camille. Les quarantenaires, mi-jeunes, mi-vieux.
Enfin, les cinquantenaires aussi. Hein.
Non, c'est foutu, ça. Les quarantenaires, mi-jeunes, mi-vieux, opposant d'un côté les femmes déçues par l'amour qui commencent toujours leur phrase par...
Je sors d'une relation difficile.
Vous savez, celles qui rentrent systématiquement en transe à chaque fois qu'elles entendent l'intro musicale du film Dirty Dancing et ce grognement ou cette remontée gastrique presque animale. It's the time of my life. Tu vois, elles sont toutes là frétillées. Et de l'autre côté, les hommes qu'elles qualifient de pervers narcissiques qui arpentent les sites de rencontres, privilégiant les sentiments au centimètre. Comme l'argent, le couple ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement. Je le sais, parce qu'à défaut d'avoir de l'argent, je suis en couple.
Wow, bravo.
Je suis en couple depuis une semaine et demie. C'est tout frais, c'est mignon, c'est innocent. On n'a pas encore abordé la question chère à Jean-Luc Reichmann dans son émission Les 12 coups de midi. La question co, la question kin, la question coquine. Non, non, une semaine et demie, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Et d'ailleurs,
vous n'avez rien fait, vous n'êtes pas en couple alors.
Une semaine et demie, elle
il l'a vu par la fenêtre passer. Pour lui, c'est déjà pas mal. Hein.
Elle m'a fait coucou. Je... Bon, on est ensemble. D'ailleurs, si elle nous écoute, joyeux anniversaire de la première semaine et demie, ma chérie. Oui, j'ai quitté le
comment
monde.
Comment elle s'appelle?
Stéphanie. Oui. Wow. Oui, j'ai quitté le monde sinistre des célibataires. Ces célibataires que les couples bien pensants veulent caser à tout prix avec d'autres amis célibataires, des belles-sœurs, des copines de copines, des voisines de cousins, des cousines de voisins, tout en ayant cette particularité inquiétante de sortir d'une relation difficile. Mmh. Alors à toutes, je conseille vivement d'aller voir votre film, Camille. Il propose une autre vision du couple, plus détachée, plus légère. Matcher sur un site de rencontre, matcher ça veut dire avoir des affinités, hein. Et quelques heures plus tard, décider sur un coup de tête de partir en vacances ensemble.
Oh, mais ils couchent ensemble d'abord quand même.
Ouais. Tout à fait.
Oui, bah moi, je ne vais pas tout raconter.
Non, ne racontez pas tout.
Elle est dans le film, ça, le moment où ils couchent ensemble?
Bah, évidemment.
Vous l'avez je vais prendre deux places, alors.
Bah, je l'ai vu, le film. Elle est peut-être là, la solution pour être heureux en couple. Ne pas trop se poser de questions, être soi-même, afin d'éviter peut-être de mauvaises Tinder surprises.
Merci. Oh, c'était très joli, cette chronique.
Merci, Camille. Merci.
Notre invité ce matin est rappeur, auteur, compositeur, réalisateur et écrivain. Il est la preuve que l'on peut mélanger le jazz, le rap et la musique urbaine et Claude Nougaro. Ses quatre victoires de la musique sont là pour témoigner de son audace musicale et de son talent. Ce matin, il vient nous parler de l'album live, l'album livre, le jeune noir à l'épée, de sa collaboration avec le musée d'Orsay. Le poète Abdelmalik est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Abdelmalik.
Bonjour, bonjour.
Alors, Le Jeune Noir à l'épée, c'est un livre-disque qui vous a été inspiré par un tableau qui vous a beaucoup marqué. Racontez-nous.
Un tableau de Pierre Puvis de Chavannes. Mmh. En fait, j'ai été contacté par le musée d'Orsay pour faire une création autour d'une exposition qui s'appelle Le Modèle Noir de Jéricho à Matisse. Et en fait, j'ai vu
ça. Donc, c'est tous les tableaux avec des noirs dessus, depuis quelle époque, 17e siècle?
En fait, c'est du 18e à nos jours, en gros. Ouais.
Jusqu'à Black Panther.
Ouais, mais ça, c'est pas un tableau. et en fait, quand j'ai vu ce tableau, justement, qui s'intitule Jeune Noir à l'épée également, ça a été un choc pour moi et j'ai voulu raconter l'histoire de ce jeune noir, mais aujourd'hui. Je pense souvent, moi les livres ont bouleversé ma vie, ont changé ma vie. Et j'ai voulu raconter l'histoire de ce jeune noir à l'épée en livre, en même temps quelque chose qui serait aussi de la musique, un spectacle, et me dire que peut-être que le petit Abdelmalik d'aujourd'hui, s'il tombait sur ce livre, ça pourrait peut-être l'aider, lui donner des clés, en tout cas donner de l'harmonie dans son chaos intérieur. Et j'ai fait ça, qui est à la fois un livre d'art, de la littérature, un récit poétique et de la musique et un spectacle.
Et vous dites, Abdelmalik, que ça vous bouleverse quand vous allez en banlieue et que des gamins vous disent « grâce à toi, j'ai... » Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Ils me disent ça. En fait, c'est des gamins de différents âges, en fait. Ouais. Je peux rencontrer des gamins très jeunes qui me disent « ouais, je t'ai vu... » à la télé, et j'ai envie de lire des livres, j'ai envie de lire un livre, etc. Ou d'autres qui me disent, je t'ai vu à une époque, et maintenant je suis avocat, et maintenant je suis médecin. Et je me suis dit, on vient du même endroit, et si toi t'as pu faire ça, moi aussi je peux faire ça. Et moi j'ai envie d'être ça, j'ai envie d'être un donneur d'espoir, et dire que le déterminisme n'existe pas, et que c'est vrai que le monde est compliqué, mais qu'on peut quand même transcender sa condition et devenir qui on doit être, j'ai envie de dire.
Alors vous êtes né, vous avez longtemps vécu à Strasbourg,
ouais.
Vos parents à un moment sont partis au Congo, ouais. Revenus, et alors votre père quand même, il se barre, il laisse votre mère toute seule avec 7 enfants.
Ah ben, c'est des choses qui existent, vous savez.
Non, mais quand même, faire 7 enfants pour se barrer, c'est un peu... Et en plus, il n'est pas parti en revenant, c'est-à-dire. Ouais. Il est parti, vous ne l'avez pas vu pendant 20 ans. Il a disparu.
Ouais, moi, autour de moi, j'ai vu que des femmes fortes. J'ai vu des hommes comme ça, comme mon père. Mais j'ai été élevé par des femmes, en fait. Pour moi, cette attitude-là, c'est une attitude que je n'arrive pas à comprendre, en fait. L'attitude que mon père a eue. Et du coup...
Vous en avez discuté avec lui après?
très peu ou de. Mais ce qui est sûr, c'est que.
Vous dites qu'il était très beau, votre père aussi, et que ouais. c'était un problème pour lui.
Ben, faut croire.
Il était très demandé, c'est ça.
Ouais, mais vous... on peut être demandé pas. J'ai envie de dire c'est à toutes les sollicitations.
Bah oui, parce que, quand même. Parce que vous aussi vous êtes très beau.
Ah c'est très gentil, mais merci beaucoup. Merci beaucoup.
Non mais attention, c'est Léa, c'est spécial.
Mais non, mais je elle, le pense, le il est très beau, Abdelmalik.
Merci
non, c'est
beaucoup.
Vrai.
Merci beaucoup. J'ai la chance d'être marié. On va fêter. Je vais fêter mes 20 ans de mariage avec avec mon épouse.
Et ben bonne journée.
Et c'est fabuleux.
Non, c'est vrai, c'est génial.
Excusez-moi, Abdelmalik.
Oui, dites-moi.
Votre épouse,
c'est la chanteuse.
C'est la chanteuse Wallen. Voilà, ouais, ouais. Que, voilà, je recommande à tout le monde les albums de cette
Wallen,
femme.
Wallen, évidemment.
Elle a une voix extraordinaire.
Elle a bercé notre adolescence, Wallen.
Merci beaucoup. Mais nous, on est une famille d'artistes, voilà. Donc
vous avez beaucoup d'admiration pour votre mère. Vous dites que vous la remercierez jamais assez pour tout ce qu'elle a fait pour vous.
Ah, ma mère, c'est mon héros absolu. Ma mère, c'est le genre de personne qui disait, je sais pas, on allait à Emmaüs, au Resto du Cœur, enfin, ce genre de choses. Mais ma mère, elle a jamais eu honte. Elle disait, c'est notre situation, mais ça veut pas dire que c'est notre situation éternellement. Et il faut assumer, et voilà, et on vit,
dit,
et on est comme ça.
Vous dites aussi qu'elle ne s'est jamais plainte, elle n'a jamais critiqué votre père.
Ouais, c'est incroyable ça. C'est-à-dire que pour nous, enfants, notre père, il était retourné au Congo, mais voilà, on s'est construit avec une absence, mais sans haine.
Et oui, mais à un moment, vous avez compris quand même qu'il vous a abandonné.
Ouais, j'ai envie de dire fatalement au bout d'un moment.
Chaque année, à la fête des pères, je disais, tiens, manque quelqu'un.
Mais bon, mais
vous avez réussi à lui pardonner à votre père ?
Ouais, bien sûr, parce que on évidemment avec le temps, on se rend compte que chacun a sa vie, chacun a une manière de gérer sa propre vie
et
de
gérer.
Il a eu d'autres enfants, il a une autre famille et tout.
Bah, il a refait cet enfant.
un peu moins, mais il a fait sa vie. Il a fait sa vie.
Quand vous étiez jeune, vous avez fait pas mal de conneries, Abdelmalik. Vous avez dealé tout ça.
Ouais.
Et vous cachiez la vérité à votre mère parce que vous étiez brillant à l'école.
Et ben ouais.
Donc elle voulait que vous soyez avocat ou médecin.
C'est ça.
Et le deal, vous faisiez derrière son dos. Quoi.
C'est ça. Elle me donnait même de l'argent de poche. Elle me donnait 10 francs alors que dans ma poche, je devais avoir.
200, 300 francs. C'est drôle.
On est tous passés par là.
Quand est-ce qu'elle l'a su, votre mère, que vous avez fait visiter?
Elle l'a su quand j'ai écrit mon premier ouvrage.
Et là
où je racontais ma vie, en 2004. Mon livre qui s'intitulait « Qu'Allah bénisse la France », que j'ai adapté au cinéma ensuite. Elle me dit « Mais tu faisais tout ça ? C'est pas possible !» Et ouais.
Elle vous a engueulé rétrospectivement ou quoi ?
Il y avait plus de matière à être fier à ce moment-là que donc du coup ça.
Bah
ça
elle l'a privé de sortie pendant une semaine à 30 piges, c'est dur.
Vous dites qu'il y a le racisme et là il y a la racialisation. Ouais. Expliquez-nous la différence.
Ben le racisme, pas besoin d'expliquer, hein, c'est un peu bête et méchant. Groupe de population serait supérieur à une autre, etc., etc. Bon. Et la racialisation, c'est différent, c'est plus complexe et pour moi, c'est pire que le racisme de mon point de vue. La racialisation, c'est que lorsqu'on pense qu'un groupe ethnique particulier est réduit à « je suis noir, donc je ne pourrais faire que ça, mon champ de possibles, c'est celui-là. Je suis blanc, mon champ des possibles, c'est celui-là, etc. etc. » Et pour moi, ça, c'est dangereux. Quand on réfléchit de cette manière-là, on peut avoir des gens qui sont a priori bien intentionnés, mais il y a une construction du regard qui fait que finalement, on met un être dans un lieu qui ne peut pas...
Et la personne se bloque elle-même, du coup. Elle se dit, c'est pas possible.
Ben en fait, ça va dans les deux sens. Il y en a un qui va se croire tout permis, un autre qui va se bloquer. Mais en réalité, cette idée de racialisation, on peut étendre. C'est-à-dire, c'est tous les gens qu'on considère être à la périphérie, finalement, les femmes, les gens qui viennent d'un certain milieu socio-culturel, etc., etc. Et mon idée, à moi, c'est de mettre la périphérie au centre. Et de dire finalement, et c'est ce que je dis dans mon ouvrage, c'est qu'on doit penser et considérer ce qui nous relie tous. Et ce qui nous relie tous, c'est qu'on est des êtres humains. Et c'est ça le plus important.
Vous dites que c'est important dans un pays de faire peuple. Vous expliquez, ça veut dire quoi faire peuple ?
Faire peuple, c'est exactement ce qui se passe quand le musée d'Orsay décide, dit finalement, on va faire une exposition qui s'appelle « Le modèle noir » et qu'on va parler d'une partie de la communauté nationale. Et cette partie, c'est les Noirs, en fait. Et de dire finalement que les Noirs ne sont pas arrivés avec la problématique migratoire, que les Noirs font partie de l'histoire de France. Et dire que les Noirs font partie de l'histoire de France, c'est aussi le fait de reconnaître la communauté nationale dans sa complexité et d'être dans une démarche inclusive. Et dans ce sens-là, de dire qu'on travaille tous à faire peuple, que la réalité, être français, c'est ni une couleur de peau, ni une religion, mais un idéal, un être au monde. Et pour moi, c'est ça, faire
peuple. On est tous égaux, en fait.
C'est ça, c'est ça.
Il y a beaucoup de travail, là.
Il y a énormément de travail, mais c'est essentiel et vital. On se rend compte, aujourd'hui...
Ça vous fait peur d'assister à la montée des intégrismes, à l'antisémitisme, au racisme. Il y a quand même, on peut pas nier que ces dernières années, il y a quand même une exacerbation de tous ces sentiments.
Bien sûr, mais en même temps, il suffit d'un seul événement. Il suffit de qu'à un moment précis, on se rende compte finalement qu'on est un et que notre destin finalement est unique. Et si on se rend compte de ça, et ça peut passer par plein de choses, véritablement, on peut effacer, j'ai envie de dire, des années de bêtises et d'errance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais au XXIe siècle, c'est vital. C'est-à-dire, on peut sombrer ou réussir tous ensemble. Et moi, j'essaye
faudrait convaincre la majorité des gens.
Plusieurs apôtres de bonnes paroles, Abdel Malik.
Oui, mais en même temps, sachez que ce n'est pas qu'une question de quantité, c'est une question de qualité.
Il faut qu'on gagne une Coupe du Monde.
C'est ça, exactement ça. Je pensais à ça. C'est vrai, mais pas que ça.
Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il faudrait qu'on ait des intellectuels, des figures qui nous fassent comprendre d'une certaine manière.
Vous dites qu'il n'y a pas assez de grandes figures intellectuelles au XXIe siècle ?
Ouais, en tout cas en France, il y en a évidemment, mais j'ai envie de dire pas assez qui arrivent à nous rendre l'intelligence sexy d'une certaine manière. C'est-à-dire non, vraiment, c'est-à-dire des gens qui vont
écoute, qu'on a envie d'écouter, de regarder,
de suivre et qui nous inspirent et qui nous donnent envie justement de faire peuple. Ouais. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. On a affaire à des gens qu'on traite d'intellectuels, mais alors que ce sont que des polémistes. Mmh. Les intellectuels réels, des fois, ils sont incompréhensibles. L'idée, en fait, c'est qu'il y ait des gens qui soient capables de parler à toutes les générations, de faire du lien générationnel, de réfléchir véritablement en termes d'égalité, etc. Je pense que c'est là où ça se situe et c'est là où il y a une crise de mon
point
de
vue. Il en faut plusieurs comme vous,
comme
en fait.
Vous, exactement.
Bah, en tout cas, chacun, là où on se trouve, nous tous, je pense qu'on peut amener notre pierre à l'édifice et il n'y a pas de petite pierre, en fait. L'idée, c'est de travailler tous ensemble là où on est à essayer de faire peuple.
Alors, ouais, vous parlez de chaos intérieur, de déterminisme, de racialisation, de champ des possibles, de transcendance. Je vous rappelle, c'est une émission d'humoriste. Est-ce qu'on peut redescendre le niveau?
Sérieusement, il faut rigoler. Trop sérieux n'est pas très sérieux. Et vous avez raison.
Vous avez été très marqué par vos professeurs, Abdel Malik, notamment déjà une professeure qui vous a sorti de ce quartier des Neuf à Strasbourg. Elle a dit à votre mère, il faut le mettre dans une école privée. Ouais. Votre mère a dit, on n'a pas d'argent. Elle a dit, il y a une bourse. Donc vous avez été boursier dans un collège privé. Et là, vous avez rencontré des professeurs extraordinaires.
Ouais, fabuleux. Mais de toute façon, sans parler de privé ou de public, les enseignants sont mes héros. Sans cette enseignante, je ne serais pas là avec vous aujourd'hui. Et c'est fabuleux parce que c'est quelqu'un...
Vous avez été la revoir, cette femme ?
Ouais, je l'ai revue, ouais. Et c'est magnifique. Mais j'ai gardé pas mal de liens avec mes enseignants. Et notamment, là, la semaine dernière, justement, j'ai joué pendant une semaine au musée d'Orsay. Il y a deux de mes profs qui sont venus. Ouais. Prof de 5e. C'était émouvant, ouais, c'est super.
Et un prof de philo vous a beaucoup marqué aussi ?
Ouais, totalement. Ouais. Ouais.
Comment il s'appelait ?
J'en ai plusieurs. Il y a eu Monsieur Miri, avec qui je suis toujours en contact et à qui je fais une spéciale dédicace dans l'ouvrage, puisque je parle un peu de lui. Et c'est des gens véritablement qui m'ont dit que j'étais beau, en fait. Et à force de me dire que j'étais beau, j'ai fini par croire que je l'étais effectivement. Et j'ai agi en conséquence. Et je pense que c'est ça.
Ils vous ont donné confiance en vous.
Exactement. Mmh. Ouais. On devient véritablement qui on est par rapport au regard qu'on nous porte. Et si on nous porte un regard positif, ça change tout. Et ma démarche, c'est toujours celle-là de dire, quand je dis je ne crois pas au déterminisme, c'est ça. C'est de dire qu'on peut programmer tout ce qu'on veut. Mais à partir du moment où on a cette énergie d'amour, de respect, et on a envie de magnifier l'autre, et ben on bouleverse tout, en fait. Et il n'y a plus de règles sur ce que va devenir l'autre.
Vous avez eu 17 au bac philo, Abdel Malik.
Ouais.
Bien. Oh, meilleure note du département.
Ça se la fait. Non, je frime pas, c'est une réalité. Non, c'est vrai, c'est vrai.
Abdel Malik, qui a une rencontre pour vous aussi qui a été très importante et incongrue, c'est la rencontre avec Juliette Gréco et Gérard Joannès.
Ouais.
Une nuit, vous êtes chez vous, vous regardez la télé, un documentaire sur Juliette Gréco et vous voyez Gérard Joannès qui parle de Jacques Brel.
Exactement.
Et alors, racontez-nous.
Et je les vois comme ça, je me dis ça serait fabuleux de travailler avec eux quand même. Et le lendemain, je suis à la maison de disques, je discute, je parle de ce moment que j'ai passé la veille. Il y a quelqu'un qui dit, moi, dans une autre vie, j'étais ingé du son et c'est moi qui ai enregistré le dernier album de Juliette et de Gérard. Si tu veux, j'essaye de faire la rencontre. Je dis, ça... Et finalement, elle fait le lien. Et Gérard, Joannès et Juliette Gréco acceptent de me rencontrer. Je vais chez eux dans l'Oise. Ils habitaient dans l'Oise à l'époque. Je toque. C'est Juliette Gréco qui m'ouvre la porte. Et on ne s'est plus jamais quitté. Ça fait 15 ans.
Mais surtout, il y a quand même une histoire, c'est qu'au départ, vous n'arriviez pas à parler avec Gérard Joannès, vous étiez tellement timide. Donc Juliette Gréco, elle apporte le thé, elle vous laisse, et vous restez en silence.
Et on reste comme ça. et Gérard, il est derrière son piano et tout, il me regarde, je dis, vous pouvez peut-être jouer quelque chose. Et il se met à jouer. Et je dis, ah, ça, c'est super. Et il le joue en boucle. Je dis, vous avez un stylo, une feuille? Et j'écris. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier texte avec lui. Ça s'est fait en 10 minutes,
en live.
15 minutes,
ah,
en
ouais.
live, comme naturellement.
Ça. Et il nous a dit, la dernière fois que je travaillais comme ça, c'était avec Jacques Brel.
Ouais, 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 c'était incroyable, ça. Et on a vécu, il nous a quittés le printemps dernier. Et on a vécu une amitié incroyable. Il a travaillé sur tous mes albums. Je suis parti en tournée avec lui. Enfin, c'était une amitié, un vrai, vrai camarade. On a vécu des choses fortes. Et sur mon livre-album, sur le disque, donc, je lui rends hommage où il y a deux titres qu'on avait enregistrés avant qu'il parte. Et voilà. Je
les ai mis. Le fameux chauffe Gérard. Ouais, chauffe, ouais. Chauffe Gérard.
J'ai une petite question. Et Juliette Gréco vous a dit, n'oublie pas que tu es un poète.
Ouais.
Ça, c'est une jolie phrase.
Ouais, vraiment. C'est-à-dire que très vite, quand on discutait comme ça, je lui disais oui, je lui parlais des problématiques de l'industrie, la musique, etc., ce qu'on fait. Et elle me disait la chose suivante, elle me dit, n'oublie jamais que tu es un poète et que ce qui fait la différence, c'est ton talent et rien d'autre, qu'importe ce qui se passe, n'oublie jamais ce que tu es. Et c'est le plus beau conseil que quelqu'un m'ait donné en tant qu'artiste, ouais, vraiment. Et
j'ai une petite question, moi, parce que en tant qu'amateur de hip-hop, moi, je suis aussi fan de la période NAP.
Ouais,
voilà, New African Poet, c'était ton groupe quand tu étais à Strasbourg. Voilà.
Ouais, ouais. Tu tutoies pas, s'il te plaît.
Pardon, excusez-moi. Non, parce que voilà, j'ai écouté Abdelmalik depuis tellement longtemps que j'ai l'impression qu'il me doit de la thune. Donc, je me permets de le tutoyer jusqu'à ce qu'il me rembourse.
Combien?
Donc, non, c'est pour savoir, parce que je vous entends pas trop souvent parler justement de la période NAP, mais plus souvent vous parlez justement de la rencontre avec Juliette Gréco. Ça veut dire quoi? Qu'elle a été moins prépondérante, la rencontre avec vos partenaires d'NAP, que les rencontres qui ont suivi, ou bien est-ce que c'est plus loin, tout simplement?
Non, c'est que justement, c'est toujours présent. En fait, avec la NAP, on ne s'est jamais quitté. Bilal, qui rappait avec moi, maintenant est mon compositeur attitré, il fait toutes mes musiques.
Il
en
est
fait,
devenu prod.
Ouais. Et tout le monde est là, en fait. Ce qui fait que, d'une certaine manière, c'est Brel qui disait ça. Brel, il disait, Jacques Brel n'existe pas, c'est un ensemble de personnes qui font Jacques Brel. Et il parlait de François Robert et de Gérard Joannès. Et moi, j'ai envie de dire, Abdelmalik n'existe pas, c'est un ensemble de personnes qui font Abdelmalik, dont les membres d'NAP. Et on a toujours travaillé comme ça, tous ensemble. Et il se trouve que je me sacrifie pour me mettre devant.
Mais c'est vraiment parce qu'ils insistent.
C'est vrai, parce qu'ils insistent.
Okay.
Sinon,
François Guédon a des choses à vous dire, Abdelmalik.
Oui.
Alors, Abdelmalik, merci de nous faire l'honneur d'éclairer le plateau de votre présence, de votre voix, de vos mots. Vous êtes rappeur, auteur, réalisateur, vous êtes le seul artiste hip-hop à avoir remporté 4 victoires de la musique pour chacun de vos 4 albums solo consécutifs. Alors, face à autant de talents, moi, je ne vois pas ce que je peux faire à part me taire.
Oh, c'est gentil.
On dirait qu'il a vu
oui,
Jésus.
Oui, enfin, ça ne vous empêche pas de faire votre chronique, François.
C'est gentil.
Oui,
c'est gentil.
Mais pardon, Anne, je m'égare. Oui, Abdelmalik, au-delà de vos chansons, de vos écrits, vous êtes de cette race conspuée, parfois oubliée, souvent malmenée. Et je ne parle pas de la couleur de votre peau, mais bien de la couleur de vos mots, puisque vous êtes envers et contre tout un poète. À l'époque où, pour certains, le rap se résume à deux énergumènes se battant à coups de parfum en se mettant plus bactère, votre présence est salutaire. Hein, parce qu'aujourd'hui, où est la poésie? Dans les seins siliconés de ces idiotes utiles de la télé-réalité, dans les pattes qu'on se met dans le slip érigé au firmament du divertissement. Dans
François,
les...
vous pouvez revenir à l'artiste, s'il vous plaît.
Pardon. Alors, Abdelmalik, avec cet album Le Jeune Noir à l'épée, vous êtes décidément le Césaire de ces bois. Avec votre gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, vous êtes moustaki sans la pilosité, toi-même tu sais. Vous résistez, vous prouvez que vous existez. La France, vous la chantez, toi-même tu sais. Vous voulez par vos mots chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Vous êtes notre berger, toi-même tu sais.
Oui, ça va François, je crois qu'on a compris la métaphore.
Pardon. Non, je voulais juste te dire que ce livre-album est un cri. Un cri qui vient de l'intérieur. Non, j'arrête. Non, un cri qui nous fait voir toutes ces choses qu'on aurait voulu oublier. L'immigration, les harkis, les migrants, le racisme. Ces deux ghettos que sont la haine et la violence, comme vous le dites si bien. Mais je pense que derrière ce cri de colère se cache un cri d'amour. Un amour de la langue, un amour de la poésie. Comme l'envie de souligner par vos mots ce qui nous unit plutôt que ce qui nous désunit. Comme si à l'heure des tensions, la poésie pouvait nous rassembler, quelle que soit notre condition, quelles que soient nos origines. Ce que votre camarade poète Romain Gary disait aussi quand il écrivait « Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. » Merci Abdelmalik. Merci.
Alors Abdelmalik, votre mère était catholique pratiquante. Mm-hmm. Enfant, vous alliez chanter à la chorale de l'église. C'est là que vous avez eu le déclic. C'était comment l'ambiance? C'était plutôt les choristes, Junio ou Sister Act? C'était comment?
C'était bien. En fait, ma mère, elle est toujours d'ailleurs catholique, pratiquante et tout. On a toujours eu... Enfin, la spiritualité, la religion a toujours fait partie de mon quotidien et ça a toujours été quelque chose de positif, en fait, en vrai.
Alors, à 16 ans, vous vous convertissez à l'islam. Ouais. Vous sombrez dans l'islam radical pendant 2 ans, à peu près. Mm-hmm. Et là, vous devenez à fond dans l'autre sens. Vous dites, pour nettoyer la souillure de la délinquance, j'avais une attitude radicale.
Ouais, mais comme beaucoup. Mais en même temps, c'est le cheminement adolescent, vous voyez, c'est-à-dire.
Il y en a qui restent.
Ouais, il y en a qui restent, mais ça reste quand même une démarche adolescente. On a envie d'adhérer à un groupe, on a envie de.
Et après, maintenant.
Avec des gens qui nous disent qu'ils nous aiment, mais la réalité. C'est que c'est une conception totalement erronée de l'islam et de la religion.
Et donc après, évidemment, je dis pas évidemment, enfin après vous allez vers un islam plus modéré. Soft, plus ouais. modéré avec le soufisme.
Ouais. Évidemment, on dit soft, modéré, etc. Mais en réalité, c'est ça, là, j'ai envie de dire, c'est la vraie version vrai, de l'islam. Ouais, c'est l'autre qui est... L'aberration, elle est plutôt.
Comment vous expliquez que les gens. Comment vous expliquez cette déviation, en fait, de compréhension? Parce qu'il y a des gens qui sont persuadés que c'est ça l'islam.
C'est simple, ça s'appelle de l'instrumentalisation.
Il y a le besoin d'appartenance aussi.
Ouais, le besoin d'appartenance, l'instrumentalisation, la manipulation de certaines personnes qui ont d'autres visées et qui utilisent finalement des gens qui n'ont pas de savoir vis-à-vis de la religion en général et de l'islam en particulier. Et donc, c'est assez facile de manipuler. Les gens, quand ces gens sont dans une démarche ignorante.
On leur a fait croire que c'était ça l'islam, alors que c'est pas ça. C'est comme avec Giroud, on lui a fait croire que c'était ça le football. Alors que non.
Ça faisait longtemps.
Vous dites, Abdelmalik, que la crise aujourd'hui, c'est une crise de référence et de modèle. Et vous demandez, parce qu'Albert Camus vous a été essentiel dans votre cheminement.
Totalement.
Expliquez-nous pourquoi.
En fait, imaginez-vous, j'ai 12-13 ans. Je lis L'Envers et l'Endroit, qui est son premier livre, et il a fait une préface avant qui est devenue pour moi comme une sorte de feuille de route. Je lis ça, j'ai l'impression que voilà quelqu'un qui parle de moi, qui parle de nous. Tout de suite, c'est devenu un référent. C'est comme si quelqu'un me disait, voilà, t'as envie d'être artiste ? Eh bien, je vais t'expliquer comment ça se passe. Et c'est Camus qui m'a expliqué comment être artiste et ce que ça signifie, la notion de responsabilité artistique.
Ce qui est génial avec Abdelmalik, c'est qu'il a la sagesse d'un homme de 70 ans.
Incroyable.
Non, c'est vrai, quelqu'un qui a vécu, qui a fait tellement de choses.
Un vieux,
vous n'avez pas l'impression d'avoir... Non, mais oui, c'est ce que j'ai dit, d'une personne de 70 ans. Vous n'avez pas l'impression d'avoir vécu plusieurs vies, déjà ?
Ouais. Justement, à l'époque d'NAP, j'avais écrit un texte où je disais « j'ai vécu 1000 vies ».
Et vous dites que vous n'en voulez à personne ?
J'en veux à personne.
Même quand on vous attaque ?
Même quand on m'attaque. Parce que je me dis toujours qu'elle nous revient toujours, la haine. C'est comme un boomerang. C'est-à-dire tu lances le truc et ça te revient. Finalement, la victime, c'est toi. Alors que si tu fais la même chose avec l'amour, ça nous revient toujours aussi.
J'envoie de l'amour, je cherche le retour. Là.
Ça va venir.
Des fois, c'est une question de timing.
Je passe ma vie à envoyer des boomerangs.
Ou alors, tu t'es trompé, t'as pas envoyé un boomerang, c'était un frisbee.
La différence aussi, c'est qu'Abdelmanik, lui, il veut juste attraper l'air du temps, vous voulez juste attraper. C'est pas pareil.
Léa Londo a des questions à vous poser, Abdelmanik.
Oui, Abdelmanik. Alors, c'est vrai que quand on a Grand Corps Malade, par exemple, face à nous, on a envie de se lamer. Quand on a Abdelmalik, on a envie de rapper. Quand on a François Guédon, on a envie de rien. Fini ma phrase. De rien d'autre que de le voir danser, parce que vraiment, il danse incroyablement bien. Voici donc mon interview, j'espère pas rater, mais rapper Abdelmalik, pas grâce à moi, mais par l'intermédiaire de certains rappeurs. Est-ce que lorsque vous repensez à vos débuts, Abdelmalik, vous diriez comme Section d'Assaut
Et j'ai dû côtoyer le pavé, pas à pas, je dis c'est pas.
Carrément. Ah ouais, ça c'est.
C'était
vrai,
dur.
Ça. Ah ouais, ça a été dur. Ouais. Mais ça l'est toujours. La vie, c'est dur, mais c'est tellement beau en même temps.
Alors derrière chaque grand homme se cache une femme, paraît-il. Alors on peut savoir qui est cette personne dont vous pourriez dire comme NTM.
Mais elle m'a mis la fière.
Mais moi, je pense que c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que elle se cache pas en fait. C'est elle est là. Et même elle est devant. C'est elle qui me pousse. C'est mon épouse Wallen. Et c'est vrai qu'on a un rapport. Très très fort et c'est vrai que mutuellement on s'inspire mutuellement.
Elle dit qu'elle a rencontré le prince charmant et que c'est vous.
Ah ben et moi j'ai rencontré ma reine et c'est elle.
Wow. Mais
c'est beau.
Il est jaloux.
Excusez-moi. Je vais sortir parce que je vais le frapper. Il m'énerve.
Enfin, comme on arrive à la fin de cette émission, est-ce que vous auriez envie de dire à Anne Romanoff comme Caris Non, c'était sympa finalement cette émission.
Ouais. Mais j'ai pas suivi Ayayoui et ce que j'ai.
C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a fait mal ou est-ce que c'était
non,
sympa?
Non, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on fait cette émission Ayayoui?
J'ai passé un moment merveilleux avec vous tous. Et c'est vrai.
Si je peux me permettre que pour moi c'était très moyen. Merci. Hein.
Le jaloux Abdelmalik, avant qu'on se quitte, j'aimerais bien que vous me fassiez un petit truc.
Ah ouais. J'ai pu voir que le livre de ma vie n'était pas seulement composé d'encre et de lettres. Mon cœur devient blanc comme neige lorsque je goûte les saveurs du « je t'aime ». Dans ton jardin, les fleurs sont multiples, mais l'eau est unique. Laisse-moi me vêtir de ton amour comme d'une tunique.
Ne me regarde pas quand tu dis ça.
Il va se pécho.
C'est l'amour pour tous.
Merci à Abdel Malik.
Celle qui a prêté sa voix au personnage d'Elsa dans La Reine des Neiges est aujourd'hui libérée, délivrée. Applaudissements pour Anaïs Delva.
Ouais.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Anaïs Delva.
Ça va?
Ça va très bien. Alors vous êtes chanteuse et comédienne, vous êtes fait connaître tout d'un coup avec un énorme succès avec cette chanson Libérée, délivrée.
Ouais.
Ah, je ne connais pas.
Waouh, je suis hyper impressionnée. J'ai envie de te connaître du coup parce que tu es la seule personne à ne pas connaître.
Donc au départ, on vous a proposé un autre rôle en fait dans ce dessin animé.
Ouais. À la base, c'était Anna, en fait.
Ouais.
J'ai passé des essais, en tout cas, pour Anna, et c'était plutôt bien engagé. Enfin, après, quand on passe des essais pour ce genre de projet, c'est toujours... on est prévalidé, mais il n'y a rien vraiment de définitif.
Sûr, ouais.
Donc, j'étais prévalidée pour ça, mais voilà, ils cherchaient leur Elsa, puis ils m'ont dit, tiens, t'essaierais pas quand même de faire la chanson.
Ouais.
Puis ça a plu, et du coup, ils ont switché.
Et vous dites que vous avez chanté cette chanson, pas comme vous, mais comme le personnage.
Bah ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vraiment un travail de comédienne, en vrai, parce que la chanson, c'est... une partie de la partition de comédie du personnage d'Elsa. Mmh. Donc et en plus, on ne peut pas la chanter comme on voudrait la chanter parce qu'on doit quand même matcher à quelque chose qui a été fait aux États-Unis.
Oui, ça a été chanté aux États-Unis. C'est une chanteuse que vous admirez beaucoup.
Que j'adore, Idina Menzel, ouais, ouais. Qui est une grande dame de Broadway. Mais elle avait fait un travail que je devais quand même respecter parce que c'est sur son travail qu'a été fait l'image. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est déjà, elle chante, elle joue. Ils font ensuite l'image par rapport à sa bouche.
Et vous, en tant que Français, dans la traduction, vous devez vous caler sur l'image
c'est
américaine.
C'est exactement ça, ouais.
Et vous avez réussi?
J'ai fait de mon mieux.
Ouais. Et alors, ça a été incroyable, cette chanson.
Parce que
d'habitude, les gens qui interprètent les chansons Disney, on ne les connaît pas.
Absolument. Ouais.
Et vous, c'est devenu votre chanson.
Je ne sais pas, il s'est passé un truc fou avec ce dessin animé et qui perdure parce que ça va faire 6 ans qu'il est sorti. Et
on
que...
vous en parle tous les jours.
Tous les jours.
Bah oui.
Vous rencontrez des gens dans la rue qui vous chantent Libérée, délivrée.
Ouais, hier, j'étais chez Castorama. On est venu me chercher. On m'a dit, dis donc, vous sauriez pas
Vous sauriez pas quoi?
Les gens n'ont même pas besoin de terminer la phrase, en fait, généralement. Ouais. Parce que c'est tellement. Ça a pris une ampleur. Enfin, c'est fou quand même. Hein.
Mais les parents vous détestent.
Eh ben, ils me détestent, mais en même temps, ils aiment bien la chanson. Hein.
Ouais.
Donc, il y a un truc. C'est juste qu'ils l'ont un peu trop entendu, et ça, je peux les comprendre.
Et on vous demande de la chanter dans la rue, du coup, Anaïs Delva.
Ah ouais, non, mais le nombre de personnes qui me demandent, genre, venez, faites une vidéo pour ma petite cousine, faites une vidéo pour moi. Là, c'est gênant quand même, on est dans un café.
C'est vrai. Et donc là, c'est votre premier album, en fait, Obsidienne.
Oui.
Un premier album que vous avez voulu très personnel pour vous présenter aux gens, pour que les gens sachent que vous n'étiez pas que celle qui chantait les princesses Disney.
Ouais, mais quand il y a quelque chose comme ça qui prend tant d'ampleur, on se paume un peu en vrai. Hein. Moi, on m'appelait la Reine des Neiges, on m'appelait... voilà. Ouais. Et donc à moi, je me suis dit, mais moi, je suis quoi en fait au final?
Vous n'êtes pas un dessin animé, quoi.
Qu'est-ce que je suis? Et en fait, tout ce qui est sorti comme texte, c'était des choses hyper personnelles.
Vous avez écrit vous-même la plupart des textes, en collaboration, vous êtes à l'origine. Ouais. Il y a aussi une chanson très personnelle sur le thème de l'avortement aussi.
Ouais.
Et vous parlez de la souffrance de se faire avorter.
Oui, bah oui, parce que j'en avais un petit peu marre du jugement permanent, enfin avec ce qui se passe. En plus, c'est fou parce que du coup, le thème il est plus que jamais d'actualité. C'était pas calculé. J'aurais bien préféré qu'il le soit pas. Mais ouais, j'en avais un petit peu marre de ce jugement permanent qu'on a sur les femmes. On diabolise complètement, alors que personne n'essaie jamais de comprendre que c'est pas de gaieté de cœur.
Mais bon, oui, vous expliquez aussi que l'avortement n'est pas un acte anodin, mais c'est rare que les gens fassent des chansons là-dessus.
Ouais, mais parce qu'en fait, elle n'a pas été faite pour l'album à la base, elle a été faite pour moi. C'était une chanson complètement thérapeutique. Et puis, en fait, quand on s'est dit, allez, on part sur un album, cette chanson, moi, elle m'a fait du bien. Et je me suis dit, elle peut peut-être faire du bien.
Il y a beaucoup de femmes qui vous ont écrit aussi pour vous remercier.
Bah, c'est pour ça que je l'ai faite et c'est ce qui s'est passé. J'ai reçu plein de messages de femmes qui m'ont dit merci parce qu'on se sent moins seule. C'est vrai qu'on se prend beaucoup de... C'est toujours la faute des femmes. C'est toujours dans ces moments-là, on dit, oh, voilà, maintenant j'entends carrément meurtrière et machin et trucs. Et en fait, à un moment, les gars, en 2019, on n'a aucune contraception qui est sûre à 200%. Il n'y a pas que les cas de viol qui nécessitent de devoir mettre fin des fois à ce genre d'événements. Et malheureusement, c'est très dur pour les femmes qui le font. Moi, je sais que j'en ai énormément souffert. Pendant 2 ans, j'ai été très malheureuse d'être passée par cette étape-là. Mais Simone Veil le disait, hein, aucune femme n'a recours à l'avortement de gaieté de cœur. Elle avait bien raison. Il faudrait que les gens comprennent ça. Et je sais que c'est peut-être pas facile à comprendre, mais des fois, il faudrait qu'il y ait un peu plus de bienveillance dans, dans tout ça, parce que les gens, il y a des gens qui en souffrent beaucoup de ça. La majorité des femmes, je pense que la totalité des femmes souffrent de ces situations.
Ben H a des choses à vous dire, Anaïs. Oh là là.
Les femmes vont encore plus souffrir.
Anaïs Delva, c'est la première fois que je rencontre une princesse Disney. Je me présente, Ben H, grand enfant. Quand j'étais petit, je rêvais de devenir un prince charmant, bien coiffé, et délivrer ma princesse d'un donjon. Et puis j'ai grandi. Et ma vie, elle est loin du conte de fées. Hein. Je suis pas devenu prince, bien coiffé non plus. Hein. Et pas de princesse à sauver dans au donjon, hein. Juste une hôtesse à payer dans le fond d'un camion.
Mais, oh non,
mais,
non.
Ça, mais ça, c'était avant Anaïs Delva. C'était avant que je rencontre ce midi en chair, en os et sans la moindre image de synthèse, la Reine des Neiges. Ouais, bon.
Mais Ben H, vous n'êtes pas censé avoir une copine ?
Anne, je vois très bien où vous voulez en venir. Vous parlez de ma relation avec Blanche-Neige. Que les choses soient claires, c'est terminé entre elle et moi. J'ai appris qu'elle m'avait trompé. Elle est repartie chez ses ex. Je lui ai demandé « J'assure pas au lit, c'est ça ?» Et là, Blanche-Neige, elle m'a répondu « Mais si, avec toi, c'est très bien. Mais avec eux, ils sont sept. » Ça me rappelle mon histoire avec Cendrillon. Une nuit d'amour fabuleuse. Le lendemain matin, je l'ai regardée. Je lui ai dit « Ah d'accord, j'ai compris. Le sortilège de la petite fée qui t'a transformée en princesse, c'est terminé. T'es redevenue une souillon. » Et là, elle m'a dit « Non, je me suis juste démaquillée. » J'imagine, Anaïs Delva, que là, vous posez la question, et c'est bien normal, mais mon Dieu, s'est-il tapé toute la parade ? Et là, la réponse est non, Anaïs, bien sûr, Pinocchio a refusé. Du coup, je vous cache pas que frustré, j'ai explosé Jiminy Cricket. Je peux vous dire que la cigale, elle va pas chanter de l'été. Alors oui, je vous le jure, fini les soirées tic-et-tac font cric-cric-crac. À Disneyland, je tourne la page, il faut que je me respecte. Dans mon slip Hakuna Matata, c'est terminé. Je crois qu'il est temps. Oui, il est temps d'aller m'acheter un peigne. Temps pour moi de devenir le prince charmant que j'ai toujours rêvé d'être. Non pas pour séduire la Reine des Neiges, non, je veux pas. Hein, je suis frileux. Je me contenterai simplement de sa voix, la vôtre, Anaïs Delva.
Bravo. Alors Anaïs Delva, vous êtes comédienne chanteuse, vous avez participé à un paquet de comédies musicales. Hein.
Ouais, bah c'était mon premier amour, la comédie musicale, vraiment.
Alors quel conseil vous donneriez aux gens qui veulent se lancer dans la musique, Anaïs Delva ?
Oh là là, déjà de réfléchir, parce que la musique c'est devenu compliqué quand même.
Vous trouvez ?
Mais le milieu du disque, il est très compliqué. Ouais.
Vous allez faire de la scène avec cet album ?
Ouais, pour le moment, il faut juste que je termine ce qu'on a commencé avec I Love Piaf.
Oui, parce que
je
suis pas mal prise Piaf. Là-dessus. Vous ne ressemblez pas du tout à Edith Piaf.
On joue pas vraiment Edith Piaf, ouais. Non.
Quoi?
Ne me chauffe pas, je peux.
Tu chauffes pas du tout.
Hein. Je vais revenir avec les sourcils.
Vous êtes déguisée en Edith Piaf ?
Non.
Vous chantez comme elle ?
On chante, mais c'est avec Jacques Pessis qui est un conteur dans ce spectacle qui raconte la vie d'Edith Piaf et moi j'illustre en chanson.
Ça donne quoi, Anaïs Delva qui chante Edith Piaf ?
Oh là là, attends.
Vous êtes un peu enrhumée, non ?
Ouais, c'est ça, c'est dur. Non, mais. Quand il me prend dans ses bras. Qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui
avec la voix du réveil. Anaïs Delva au théâtre de la Tour Eiffel dans I Love Piaf, c'est jusqu'au 27 juillet. Didier Porte, parlez-nous donc de votre rapport à l'univers Disney. Vous connaissez la Reine des Neiges ?
Ouais, bah quand même, oui, j'ai des enfants et j'ai aussi des tympans. Hein. Et je ne vous cacherai pas, mademoiselle, que votre chanson, à une époque, le père de famille patient, mais il y a des limites que je suis, l'a quand même beaucoup entendu.
Oh là là.
Je ne crois pas être le seul dans ce cas. Je n'ai pas consulté les statistiques mondiales d'infanticide, mais je pense qu'il y a dû avoir un pic d'au moins 3-4 ans. Ah oui, on l'a beaucoup entendu cette chanson, hein, à la télé, à la radio, sur les téléphones, dans la bouche bien sûr de nos filles, qui n'ont pas forcément malheureusement vos qualités d'interprétation, dans la bouche des copines de nos filles, dans la bouche des petits frères déguisés de force en Reine des Neiges de nos filles, dans la bouche des mères de nos filles, à la surprise des pères de nos filles, qui ignoraient que leur compagne était capable de monter aussi haut dans les aigus. Pour vous dire à quel point, à la sortie du film, vous étiez omniprésente dans nos vies, mademoiselle, alors que je regardais pour la 10 000e fois, et donc d'un œil et d'une oreille distrait, un documentaire sur la libération de Paris en 1944, j'ai entendu distinctement le général de Gaulle prononcer les mots suivants. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, délivré, la 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 la. Je vous jure, le général de Gaulle chantait. Bon, sinon, pour en revenir au fameux univers Disney, ce n'est pas trop mon monde à moi. Par exemple, vous l'ignorez, ma chère Anaïs, mais on a failli se rater tous les deux. Anne Roumanoff, en effet, a longuement hésité à me faire venir en même temps que vous. Elle m'a dit, tu comprends, Anaïs Delva est non seulement talentueuse, mais aussi jeune, jolie, gracieuse, sympathique, aimable. J'ai peur que l'effet de contraste avec toi soit un peu violent. N'oublions pas que nous sommes filmés en permanence dorénavant. Ça te dérangerait de rester sous la table du studio pendant que tu fais ton papier, on t'installera un micro. Oh, puis non, finalement, reste avec nous, il faut qu'elle s'endurcisse, cette petite. Voilà, c'est ça mon monde à moi. C'est d'ailleurs sûrement le monde de beaucoup de monde. Il était bien gentil, Walt Disney, mais il avait tendance à enjoliver légèrement la réalité.
Oui, là, non, mais, oui, mais justement, Didier, vous pourriez peut-être vous abstenir et laisser rêver un peu tranquillement vos enfants.
Ah non, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, lorsque je les ai accompagnés voir Blanche-Neige et les Sept Nains, je leur ai expliqué le contexte, avec le scandale des hormones de croissance qui allait déboucher plus tard sur l'épidémie de vaches folles et qu'il fallait donc...
Didier. Oui. Retournez sous la table.
Voilà. Voilà, c'est ça ma vie, mademoiselle Delva. Et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un film de Walt Disney. Oh.